La première quinzaine de juillet fut bien longue. Les meubles attendaient dans le couloir et nous attendions à l'école, où nous ne faisions pas grand-chose. Les maîtres nous lisaient le décompte d'Andersen ou d'Alphonse Daudet. Puis nous allions jouer dans la cour pendant la plus grande partie de la journée. Mais nous poursuivions sans conviction ces jeux d'écoliers, tout à coup rapetissés et désenchantés par l'approche lente mais sûre des jeux éternels des grandes vacances. Je me répétais sans cesse quelques mots magiques. La villa, les pinèdes, les collines, les cigales. Il y en avait bien quelques-unes au bout des platanes scolaires, mais je n'en avais jamais vu de près, tandis que mon père m'en avait promis des milliers et presque toujours à portée de la main. C'est pourquoi, écoutant les chanteuses égarées qui nous narguaient invisibles dans les hauts feuillages, je pensais sans la moindre poésie, « Toi, ma vieille, quand nous serons dans la colline, je te mettrai la paille au cul. » Telle est la gentillesse des petits anges de 8 ans. Un soir, l'oncle Jules et la tante Rose vinrent dîner à la maison. Ce fut un dîner-conférence pour la préparation du grand départ qui devait avoir lieu le lendemain. L'oncle Jules, qui se flattait d'être un organisateur, déclara d'abord qu'à cause de l'état des chemins, il n'était pas possible de louer une voiture importante, qui aurait d'ailleurs coûté une fortune et peut-être même 20 francs. Il avait donc loué 2 véhicules, un petit camion de déménagement qui transporterait ses propres meubles, ainsi que sa femme, son fils et lui-même au prix de 7 francs 50. Cette somme comprenait la puissance d'un déménageur qui serait à notre service toute la journée. Pour nous, il avait trouvé un paysan qui s'appelait François et dont la ferme était à quelques centaines de mètres de la villa. Ce François venait 2 fois par semaine vendre ses fruits au marché de Marseille. En remontant chez lui, il transporterait notre mobilier au prix raisonnable de 4 francs. Cet arrangement enchanta mon père, mais Paul demanda « Et nous, nous monterons sur la charrette ?»« Vous, dit l'organisateur, vous prendrez le tramway jusqu'à la Barrasse. Et de là, vous rejoindrez votre paysan, pédibus comme Jean-Louis. Augustine aura une petite place sur le chariot, et les 3 hommes suivront à pied avec le paysan. » Les 3 hommes acceptèrent cette idée avec joie. Et la conversation, qui dura jusqu'à 11 heures, devint absolument féerique, car l'oncle Jules parla de chasse, puis mon père parla des insectes, si bien que jusqu'à mon réveil, je tirais des coups de fusil sur des 1000 pattes, des sauterelles et des scorpions. Le lendemain matin, dès 8 heures, nous étions prêts, et déjà revêtus du costume des vacances, culottes de toile écrue et chemises à manches courtes, blanches mais ornées de cravates bleues. Ces vêtements étaient l'ouvrage de ma mère. On avait acheté dans un grand magasin nos casquettes à longue visière et nos espadrilles à semelles de cordes. Mon père portait un veston à martingale avec 2 grandes poches plaquées et une casquette bleu marine, tandis que ma mère était jeune et belle dans une robe blanche à petites fleurs rouges qu'elle avait merveilleusement réussie. Pour la petite sœur qui ouvrait de grands yeux noirs sous un bonnet bleu, elle paraissait inquiète parce qu'elle avait compris, comme font les chats, que nous allions quitter la maison. Le paysan nous avait prévenus. L'heure de notre départ ne dépendait point de son zèle, mais de la vitesse d'écoulement de ses abricots. Elle ne fut pas très rapide ce jour-là, car à midi, il n'était pas encore arrivé. Nous déjeunâmes donc dans la maison déjà morte, de saucissons et de viande froide, et nous courions sans cesse à la fenêtre pour guetter l'arrivée du messager des vacances. Il parut enfin.